Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Sanhedrin, page 53, Daf Nun Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Nous avons vu à la fin du shiur précédent qu'il y a une discussion entre Rabbi Hoshaya et Rabbi Yonatan. D'où apprenons-nous que Mot Yumat, ils seront mis à mort, qui est mentionné à propos d'un homme et d'une femme qui ont commis un adultère. Alors d'où je sais que cette peine de mort, c'est la mort par strangulation. Alors, Rabbi Hoshaya a dit qu'étant donné que c'est mentionné une peine de mort simplement, alors c'est la peine de mort la moins grave. Et la peine de mort la moins grave, c'est la strangulation. Par contre, Rabbi Yonatan lui a dit non. C'est pas parce que c'est la moins grave, mais c'est tout simplement car toute peine de mort qui est mentionnée simplement dans la Torah, c'est la peine de mort par strangulation. Et l'Agma dit, Bishama le Rabbi Yonatan, je peux comprendre après Rabbi Yonatan, qui est de me faire chez Bitama, la raison pour laquelle une simple peine de mort mentionnée dans la Torah, c'est la peine de mort par strangulation, c'est comme Rabbi en a donné la raison. Et cette raison a été rapportée à la fin du shiur précédent, et c'est comme nous a dit Rabbi, que de même que la peine de mort donnée par le ciel, c'est une peine de mort qui ne laisse pas de marque, de même la peine de mort donnée par les hommes, ça doit être une peine de mort qui ne laisse pas de marque. Or, des quatre peines de mort, la seule qui ne laisse pas de marque, c'est la strangulation. Et là, les Rabbi Hoshaya, mais d'après Rabbi Hoshaya, qui nous dit que la peine de mort, ça doit être la peine de mort la moins grave, et c'est donc par la strangulation, qui nous dit qu'il existe une peine de mort par strangulation. Imasaïf, peut-être qu'ils seront mis à mort, ça signifie par l'épée, c'est-à-dire la décapitation. Amarava, alors Rava a dit, Arba mitot, gmara gmirelehu. Les quatre peines de mort, et ces quatre façons de mise à mort, c'est une tradition qu'ils avaient entre leurs mains. C'est-à-dire que les sages ont reçu de Moshe Rabbeinu, qui lui-même l'a reçu de Akadosh Baruch Hu, qu'il existe quatre peines de mort et qui sont la strangulation, la décapitation, la brûlure et la lapidation. Et donc, maintenant, lorsque nous venons expliquer ce qui est écrit dans la Torah, Mot Yumato, ils seront mis à mort, et que nous ne savons pas par quelle façon de mise à mort, alors on sait qu'on leur donnera la peine de mort la moins grave, qui est la strangulation. La Gemara demande maintenant, Mai lomipne shiikala. Quelle est l'explication de ce que Rabbi Yonatan a dit à Rabbi Hoshaya, que la raison pour laquelle on leur donne la strangulation, ce n'est pas parce que c'est la peine de mort la moins grave. Comme ça, Rabbi Yonatan a dit à Rabbi Hoshaya. Alors, la Gemara répond, Kamifligue beplukta de Rabbi Shimon ve Rabbanan. Rabbi Yonatan et Rabbi Hoshaya sont en discussion de la même discussion que Rabbi Shimon et Rabbanan. De même qu'entre Rabbi Shimon et Rabbanan, il y a une discussion. Quelle est la peine de mort la moins grave? Est-ce que c'est la strangulation ou la décapitation? De même, entre Rabbi Yonatan et Rabbi Hoshaya, il y a cette même discussion. D'après Rabbi Hoshaya, la peine de mort la moins grave, c'est la strangulation. Par contre, d'après Rabbi Yonatan, c'est la décapitation. Et c'est pour cela que Rabbi Yonatan lui a dit à Rabbi Hoshaya que la raison pour laquelle on ordonne la strangulation, ce n'est pas parce que c'est la peine de mort la moins grave. Amar le Rabbi Zira, le Abaye. Rabbi Zira lui a posé une question à Abaye. Char aniskalim. Toutes les autres personnes qui sont passibles de peine de mort par lapidation, c'est-à-dire dans la Torah, il existe plusieurs personnes qui ont transgressé certains interdits, qui sont passibles de peine de mort par lapidation. Il y a certaines personnes sur lesquelles c'est écrit explicitement, et il y a d'autres cas dans lesquels ce n'est pas écrit explicitement. Rabbi Zira demande à Abaye, dans le cas des personnes qui ont transgressé un interdit, qui sont passibles de peine de mort par lapidation, et que cette peine de mort n'est pas écrite explicitement, des leoctives beaux qu'il a, ce n'est pas écrit explicitement qu'ils sont passibles de peine de mort par lapidation. Et nous l'apprenons des Gamre, Meov et Yidoni. On l'apprend du Ov et Yidoni, qui sont deux sortes de sorciers. Et la différence entre ces deux sorciers sera expliquée plus loin d'Af Samerhe. Mais ces deux sorciers sont passibles de peine de mort par lapidation. Et de ces sorciers-là, nous apprenons les autres cas qui sont passibles de peine de mort par lapidation. Alors, par Xerashava, Bemaï Gmire, par quel mot on apprend cette Xerashava? Est-ce qu'on l'apprend par Bemot Yumatu? Est-ce qu'on l'apprend Gamre? Est-ce qu'on l'apprend par Mot Yumatu? De là on apprend, c'est-à-dire, ils seront mis à mort. Il est écrit à propos de Obeidoni Mot Yumatu. Il est écrit à propos de ceux qui ont transgressé cet autre interdit Mot Yumatu. De même que Obeidoni sont passibles de mort par lapidation. De même ceux qui ont transgressé cet autre interdit sont passibles de mort par lapidation. Ou alors est-ce qu'on l'apprend par de la Xerashava du terme d'Amehem Bam, ils auront la responsabilité de leur sang. C'est-à-dire, il est écrit à propos du Ov et Yidoni d'Amehem Bam, et il est écrit à propos de ceux qui ont transgressé cet autre interdit d'Amehem Bam, de même que Ov et Yidoni, c'est la peine de mort par lapidation. De même, ceux qui ont transgressé cet ordre interdit, c'est la peine de mort par lapidation. Donc, Rabzira a posé la question à Abaye, de quel terme on l'apprend? Est-ce que de motiumato ou de damehem bam? Amar, il lui a répondu, bedamehem, damehem bam gumire. On l'apprend par Xerashava du terme damehem bam. Ils porteront la responsabilité de leur sang. Dei bemot yumatu gumire. Car si on l'apprend par Xerashava du terme mot yumatu, ils seront mis à mort. Alors, d'amem, la mali. Pourquoi avons-nous besoin de dire, ils porteront la responsabilité de leur sang? Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Alors, comment nous dit, et la mali, ben, d'amem, alors, quoi? Tu veux me dire qu'on l'apprend par Xerashava du terme, d'amem, c'est-à-dire, il est écrit à propos de Oveidoni d'amem, et il est écrit à propos des autres interdits d'amem, de même qu'ici, c'est une peine de mort par lapidation, de même là-bas, c'est une peine de mort par lapidation. Alors, à ce moment-là, mot yumatu la mali. Pourquoi avons-nous besoin d'écrire mot yumatu? Ils seront mis à mort. C'est un terme apparemment qui est entre eux. Alors qu'est-ce qu'on apprend de cela? Alors la Gemara répond, non, ça on apprend de ce terme, on apprend quelque chose qui est des Tanya, comme ce que nous avons essayé dans la Braïta. Hein. Il est écrit dans le verset, Mot Yumat Amake, celui qui a frappé sera mis à mort. Pourquoi? Rotser, ou c'est un assassin. Et de là j'apprends de ce Mot Yumat, El Yela Bemita Ktuvabo, je n'apprends de là qu'on ne lui donnera seulement la peine de mort qu'il doit recevoir. Minai Jimi Atayachol Amitao. D'où je sais que si tu ne peux lui donner la peine de mort qu'il doit recevoir, tu as le droit de lui donner n'importe quelle peine de mort. Il faut juste lui donner une peine de mort. Le verset nous dit, mot yumat amake, celui qui a frappé sera mis à mort, mikol makom, de toute façon il doit être mis à mort. Et donc c'est ce que nous apprenons de ce mot mot yumat. Et donc en fait, de damem, on apprend que la peine de mort est par lapidation. Et du terme « mot yumat », j'apprends que si je ne peux lui donner la lapidation, je lui donne n'importe quelle autre peine de mort. Par contre, si ça avait été le contraire, c'est-à-dire qu'on aurait appris la lapidation par « mot yumat », on n'aurait rien pu apprendre du terme « damehem bam ». Ils porteront la responsabilité de leur sang. « Amar les ravach amidifti les rabbina ». Alors, ravach amidifti a posé la question à rabbina. « Vi pe mot yumatu gamre, maika kashiele ». Et si on avait appris du terme de mot yumatu, en quoi il y a un problème? C'est-à-dire que Rabzira a posé une question à Abaye, de où on apprend? De mot yumatu ou de damehem bam? Ça veut dire qu'il avait un problème. Alors si on avait appris de mot yumatu, quel aurait été son problème? Alors la Gemara nous répond, il ima eshetish kakashele, et si on allait dire que peut-être son problème est à propos d'une femme mariée qui a trompé son mari, car à propos d'une femme mariée qui a trompé son mari, il est écrit mot yumat, elle sera mise à mort. Et donc j'aurais pu dire les meite velimigmar motumat mi oveidoni, qu'elle vienne et qu'elle apprenne cette motumat, elle sera mise à mort de oveidoni, et donc mal alan beskila, afkan beskila, de même que oveidoni est passible de peine de mort par lapidation, de même ici la femme mariée qui a trompé son mari est passible de peine de mort par lapidation, et que c'était ça le problème de Rabzira, qui a dit que si on apprend du terme motumat, alors on doit inclure aussi la femme mariée qui a trompé son mari dans la peine de mort par lapidation. Alors non, c'est pas possible. Pourquoi? Mida amar rachmana rusa biskila, étant donné que la Torah a dit que la femme fiancée qui a trompé son fiancé est passible d'une peine de mort par lapidation. Michlal denesua lav beskila, cela veut dire que la mariée n'est pas passible de lapidation. Et donc, on n'aurait pas pu inclure la femme mariée qui a trompé son mari dans la peine de mort par lapidation. Rachman nous dit, Alors son problème, c'était le cas de celui qui a fait une plaie à son père ou à sa mère. Car étant donné qu'il est écrit mot yumat à propos de celui qui a fait une plaie à son père ou à sa mère, les meites et les migmar me obéidoni qu'on amène et qu'on apprenne de obéidoni, de même qu'obéidoni, ses sorciers sont passibles de peine de mort par lapidation, de même celui qui fait une plaie à son père et à sa mère, ou à sa mère, sont passibles de peine de mort par lapidation. L'Agma nous dit, non, mais là, on peut aussi répondre. Pourquoi? Ad gamre me obeidoni, au lieu d'apprendre de obeidoni, dans lequel il est écrit aussi motumat, les gmero me echetish, qu'on apprend de la femme qui a trompé son mari, dans le cas dans lequel il est écrit aussi motumat, et qui n'est pas passible de peine de mort par lapidation, mais par strangulation. Et donc, c'est vrai qu'à propos de obeidoni, il est écrit motumat, mais étant donné qu'à propos de echetish, il est écrit aussi motumat, car tu n'as pas le droit de rechercher à lui donner la peine de mort la plus grave, mais tu devras rechercher à lui donner la peine de mort la moins grave. Et donc, à propos de Makia Viveimo, qu'il est écrit Mot Yumat, alors on devra apprendre de Eshetish, de la femme qui a trompé son mari, et non pas de Oveidoni, et de lui donner la peine de mort par strangulation. Amarle, alors il lui a répondu, Ravina, non, moi je vais t'expliquer c'était quoi le problème de Rabziva. Shara Niskalim Gufayu Kakashele. C'est tous les autres personnes qui sont passibles de peine de mort par lapidation, et dans le cas dans lequel où la peine de mort par lapidation n'est pas mentionnée explicitement dans le verset. C'était ça son problème. Et que l'on l'apprend par mot yumat. Alors, dit de mot yumat gamre, car si on apprend par le terme de mot yumat, a de gamre me ove idoni, ligmeru meshetish. Au lieu d'apprendre de ove et idoni, que ces personnes sont passibles de peine de mort par lapidation, on n'a qu'à l'apprendre de Eshetish, d'une femme qui a trompé son mari, et cas dans lequel il est aussi mentionné les termes mot yumat, et dire qu'ils sont passibles de peine de mort par strangulation, et non pas par lapidation. Et donc, qui nous dit que tous ces autres cas sont aussi passibles de mort par lapidation? C'est pour cela qu'Abaye lui a répondu que l'on n'apprend pas par Xerashava du terme mot yumat, mais par Xerashava du terme damehem bam, ils porteront la responsabilité de leur sang. Et à propos de Eshetish, une femme qui a trompé son mari, il n'est pas écrit d'Amehem Bam, elle portera la responsabilité de son sang. Et donc c'est pour cela que l'on apprend tous ces autres cas de Ov et Yidoni, dans lequel il est mentionné d'Amehem Bam, il portera la responsabilité de son sang. Et on ne les apprend pas de Eshetish, une femme qui a trompé son mari, cas dans lequel il n'est pas mentionné d'Amehem Bam, il portera la responsabilité de son sang. Et la Mishnah nous dit, Elohen Aniskalin, et voici ceux qui sont passibles de peine de mort par la lapidation. Abba Alahem, celui qui a une relation intime avec sa mère. Va'al Eshet Av, ou alors avec la femme de son père. Va'al Akala, ou avec sa belle-fille. Va'al Azacho, ou alors avec un homme, une relation homosexuelle. Va'al Abehema, ou alors avec une bête. Va'isha Mivya et Abehema, ou une femme qui a une relation intime avec une bête mâle. Va'amegadef est celui qui maudit à Kadosh Baruch Hu Chas V'Shalom. Va'oved avodat kochavim est celui qui s'adonne à l'idolâtrie. Va'anoten mizaro la molech est celui qui fait passer de sa descendance au molech. C'était un rituel idolâtre qui consistait à faire passer son enfant dans le feu. Et c'est une chose qui est interdite et celui qui le fait est passé de peine de mort par lapidation. Ubaal ov ve'idoni et ces sorciers qui sont ov et idoni qui faisait parler les morts par la magie, va mechalel et Shabbat, et celui qui transgresse le Shabbat, va mechalel aviv veimo, et celui qui maudit son père et, ou sa mère, va bal nahara meurasa, et celui qui a une relation intime avec une jeune fille fiancée, va mesit, et celui qui influence son ami à s'adonner à l'idolâtrie, va hamediar, et celui qui influence toute une ville à s'adonner à l'idolâtrie, va mechachef, et le sorcier, ou ben sorer ou moré, et le fils rebelle, dans tous ces cas-là, ils sont passés de peine de mort par lapidation. Maintenant, Abba Alahem, celui qui a une relation intime avec sa mère, sans faire exprès, chayav alea mishum em ou mishum eshetab. Il a transgressé deux interdits, et donc il doit amener deux sacrifices expiatoires. Premièrement, il a transgressé l'interdit d'avoir une relation intime avec sa mère, et deuxièmement, il a transgressé l'interdit d'avoir une relation intime avec la femme de son père. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit, Enochayav ela mishum ha'em bilvad. Il n'est possible d'un seul sacrifice pour avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation intime avec sa mère et seulement pour cela. Abba aleshet av, celui qui a une relation intime avec la femme de son père, sans faire exprès, alors il a transgressé deux interdits et il est passible de deux expiatoires. Chayav mishum eshet av, il est possible d'avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation intime avec la femme de son père, ou Mishum Eshetish, et deuxièmement avec une femme mariée. Et ben Bechaye Aviv, ben Lachar Mitat Aviv, ben Minayrusim, ben Minanisuim. C'est interdit d'avoir une relation intime avec la femme de son père, c'est soit durant la vie de son père, soit après la mort de celui-ci, et soit que cette femme lui était mariée, soit qu'elle lui était simplement fiancée. Albak Al-Kalato, celui qui a une relation intime avec sa belle-fille. Chayav Aleham Shum Kalato, il est possible, premièrement, d'avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation intime avec sa belle-fille, ou Mishum Eshetish, et deuxièmement, l'interdit d'avoir une relation intime avec une femme mariée. Et donc, s'il a fait sans faire exprès, il est passible de deux sacrifices expiatoires. Et l'interdit d'avoir une relation intime avec sa belle-fille, c'est ben bechaye bno, ben lachar mitat bno, que ce soit durant la vie de son fils, ou que ce soit après la vie, après la mort de celui-ci, ben mina irusin, ben mina nisuim, que ce soit sa femme ou que ce soit sa fiancée. Tania, nous avons enseigné dans une braïda. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, im lo aita imo rouya le'aviv, si sa mère n'était pas apte à être mariée avec son père, eno chayav ela mishum ma'im bilvad. Il n'a transgressé que seulement l'interdit d'avoir une relation intime avec sa mère. Cette braïda, en fait, se rapporte sur ce que nous avons enseigné dans la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu qu'il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et les sages dans le cas d'un homme qui a une relation intime avec sa mère. Est-ce qu'il a transgressé deux interdits? L'interdit d'avoir une relation intime avec sa mère et avec la femme de son père, ou un seul interdit, seulement l'interdit de sa mère. Dans la Mishnah, nous avons vu que l'opinion de Rabbi Yehuda est qu'il n'a transgressé qu'un seul interdit. Cette braïda est en discussion avec notre Mishnah et nous dit que ce n'est pas dans tous les cas que Rabbi Yehuda dit qu'il a transgressé un seul interdit, mais seulement dans le cas où la femme de son père n'était pas apte à être sa femme. Par exemple, si son père n'avait pas le droit de se marier avec celle-ci. Alors, dans un cas pareil, elle n'est pas considérée comme étant la femme de son père, et donc le seul interdit qui reste, c'est seulement l'interdit de sa mère. La Gemara demande, « Mai ena reuyalo », que signifie qu'elle n'était pas apte à se marier avec son père? « Ilima chayve kritut ve chayve mitot bedin » Si nous parlons d'un cas où cette femme n'avait pas le droit de se marier avec son père et que c'était un commandement négatif, passible de peine de retranchement ou passible de peine de mort, et donc c'est pour cela que le mariage n'était pas valide et qu'elle ne transgresse pas et qu'il ne transgresse pas l'interdit d'avoir une relation intime avec la femme de son père puisque le mariage n'était pas valide. En Michal de Rabbanan, c'est vrai, à Falgav de Nar ou Yalo, ça veut dire que les sages pensent que même si elle n'est pas apte à son père, malgré tout, l'homme qui a eu une relation intime avec la femme de son père qui ne lui était pas apte, sera transgresse l'interdit d'avoir une relation intime avec la femme de son père. Comment est-ce possible de dire une chose pareille? Alet le kidushin begava, pourtant le mariage n'était pas valide, elle ne s'appelle pas la femme de son père. Et donc dans un cas pareil, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et les sages, à savoir, est-ce que cette femme est considérée comme étant la femme de son père ou pas? Car d'après tout le monde, étant donné que le mariage n'est pas valide, elle n'est pas considérée comme étant la femme de son père. Et là, chayve lavin, on est obligé de dire qu'ici on parle dans un cas où elle était interdite à son père seulement par un commandement négatif. De Rabbi Yehuda, savoir là qui est Rabbi Akiva. Et Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Akiva, de Amar qui a dit, un kiddushin tofsin bechayve lavin. Un homme qui se marie avec une femme qui lui est interdite par un commandement négatif, le mariage n'est pas valide. Et donc c'est pour cela qu'elle n'est pas considérée comme étant la femme de son père. Et un homme qui a une relation avec et le fils donc qui a une relation avec sa mère, n'a transgressé seulement l'interdit de sa mère, mais pas l'interdit de la femme de son père. Et les sages, eux, pensent que c'est vrai que cette femme était interdite par un commandement négatif, mais le mariage est quand même valide, et donc c'est pour cela que si le fils a une relation intime avec cette femme-là, il transgresse l'interdit de la mère et de la femme de son père. Mais Rav Boshaya, alors Rav Boshaya pose une question. Et Rav Boshaya rapporte un enseignement à propos du Yiboum. C'est-à-dire, il y a une loi qui nous dit que lorsqu'un homme meurt sans enfant, alors le frère de celui-ci devra se marier avec la femme du défunt. Et cette mitzvah s'appelle la mitzvah de Yiboum. Si le frère du défunt ne veut se marier avec la femme du défunt, alors à ce moment-là, on devra procéder à la chalitza. Maintenant, il existe certains cas où la femme du défunt n'a pas le droit de se marier avec le frère du défunt. Par exemple, et là, la loi se divise en plusieurs cas. Ça dépend, premièrement, est-ce que cette femme n'a pas le droit de se marier avec le frère du défunt? Est-ce que c'est un interdit, un simple commandement négatif, ou un commandement négatif passible de peine de retranchement? Alors, si c'est un commandement négatif passible de retranchement, par exemple dans le cas où la femme du défunt est la fille du frère du défunt, si par exemple un homme s'est marié avec sa nièce et que cet homme est décédé, donc sa femme est la fille de son frère, et un homme n'a pas le droit de se marier avec sa fille. Et donc, le frère du défunt ne pourra pas se marier avec la femme de celui-ci. Et donc, dans un cas pareil, on est exempt de procéder ni au yiboum, ni à la chalitza. Maintenant, dans le cas où la femme du défunt n'est interdite que par un simple commandement négatif. Par exemple, si le frère du défunt est un grand prêtre. Or, le grand prêtre n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Or, la femme du défunt, étant donné que son mari est décédé, est appelée une veuve. Donc, le grand prêtre n'a pas le droit de se marier avec elle. Alors, que fera-t-on dans un cas pareil? Et ça, la Braïta nous dit, « Issur mitzvah veissur kdusha » Si cette femme est interdite à cause d'un interdit de mitzvah ou un interdit de sainteté, nous allons expliquer un peu plus loin que signifie un interdit de mitzvah ou un interdit de sainteté. Alors dans un cas pareil, cholzot velo mityabmot, on procédera à la chalitza et non pas au yiboum. C'est-à-dire que le frère du défunt devra faire la chalitza, mais il n'aura pas le droit de se marier avec la veuve.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Daf Nun Gimel Amud Bet. Issur mitzvah, que signifie un interdit de mitzvah? C'est les shniyot midivrei sofim. C'est toutes les femmes qui sont interdites d'ordre rabbinique. Ve'amai kareleu issur mitzvah. Pourquoi on appelle ça un interdit de mitzvah? Chez mitzvah, lishmoa divrei chachamim. Car il y a une mitzvah d'écouter les paroles des sages. Issur kdusha, les interdits de sainteté, c'est quoi? C'est par exemple le cas de Almana, les Kohen Gadol, le cas d'une veuve à un grand prêtre, ou Grusha vechalutza, les Kohen idiotes, ou le cas d'une femme divorcée ou d'une chalutza à un simple Kohen. Ça, ce sont des choses qui sont interdites par un commandement négatif. V'amai karelu issur kdusha, et pourquoi on appelle cela les interdits de sainteté? Dirtiv, car il est écrit, Kdoshim yiyu l'Elohim. Ils seront saints pour leur peuple. Et donc, dans ces deux choses-là, le issur mitzvah, le issur kdusha, on procédera à la chalitza et pas au yiboum. Vetania, et nous avons enseigné là-dessus, Rabbi Yehuda Machlif, Rabbi Yehuda inversait les explications. C'est-à-dire que, pour lui, issur mitzvah, c'était les femmes qui sont interdites par la Torah, par un simple commandement négatif. Par exemple, une veuve pour un grand prêtre ou une divorcée pour un simple prêtre. Et issur kdusha, ce sont les femmes qui sont interdites d'ordre rabbinique. Et la Gemara prend de là, chilouf Yehuda Machlif, ha chalitza baya. Lui, il ne faisait que inverser l'explication. Mais il est d'accord qu'on a besoin de chalitza. Et donc il en sort qu'une femme qui est interdite sur un simple commandement négatif, on a besoin de lui faire la chalitza. Or, si tu penses que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Akiva, et que de même qu'un homme qui se marie avec une femme qui est interdit par un commandement négatif, passible de peine de retranchement, le mariage n'est pas valide, de même un homme qui se marie avec une femme qui est interdite par un simple commandement, le mariage n'est pas valide, en mirdechai velavin, le Rabbi Akiva, qui chavekri tout damé, étant donné que d'après Rabbi Akiva, les femmes qui sont interdites par un simple commandement négatif sont égales aux femmes qui sont interdites par un commandement négatif, passible de peine de retranchement. Or, les femmes qui sont interdites par un commandement négatif, passible de retranchement, comme on a déjà expliqué plus haut, on ne leur fait ni la chalitza, ni le yiboum, mais elles sont exemptes complètement. Et donc, de même, Rabbi Akiva pense qu'une femme qui est interdite par un commandement négatif devrait être exempte de chalitza et de yiboum. Et donc, si Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Akiva, une femme qui est interdite par un commandement négatif, par exemple, une veuve pour un grand prêtre, alors le grand prêtre ne pourra pas procéder au yiboum, mais il ne pourra même pas procéder à la chalitza. Or, dans la braïta que nous avons rapportée, nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, lui, il fait que échanger l'explication. Mais il est d'accord qu'un grand prêtre devra faire la chalitza à sa belle-sœur. Et donc, cela veut dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Or, comment pouvons-nous dire que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Akiva? La Gemara répond, les dvarav de Tanakama kamar. Velei los virale. Lorsque Rabbi Yehuda a dit qu'il faut inverser l'explication, il parle d'après Tanakama, mais lui, il n'est pas d'accord. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda lui-même pense qu'une femme qui est interdite par un simple commandement négatif, alors on ne procédera ni à la chalitza, ni au yiboum. Mais d'après Tanakama, que l'on devra quand même procéder à la chalitza, Alors il faut savoir que l'explication de Issour Mitzvah et Issour Kedusha, ce n'est pas comme Tanaka m'a dit, mais il faut inverser. Et donc Issour Mitzvah, ce n'est pas les femmes qui sont interdites par d'ordre rabbinique, mais les femmes qui sont interdites par un simple commandement négatif. Et Issour Kedusha, ce ne sont pas les femmes qui sont interdites par un simple commandement négatif, mais ce sont les femmes qui sont interdites d'ordre rabbinique. Mais Rabbi Yehuda lui-même pense que une femme qui est interdite par un commandement négatif ne fait même pas la Khalitza, car lui, il pense comme Rabbi Akiva, que dans un cas pareil, le mariage n'est pas valide, et donc on n'a même pas besoin de procéder à la Khalitza. Qui a ta Rabbi Yitzhak, lorsque Rabbi Yitzhak est venu, Tane Keditnan, lui, il a enseigné comme ce que nous avons enseigné dans la Mishnah. C'est-à-dire, dans la Mishnah, nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, un homme qui a une relation avec une femme qui est sa mère et la femme de son père, n'est passible que d'une seule punition. Par contre, dans la Braïta, nous avons vu que ce n'est pas dans tous les cas qu'il n'est passible d'une seule punition, c'est seulement dans le cas où sa mère n'avait pas le droit d'être mariée avec son père. Et donc c'est pour cela que dans un cas pareil, il n'est pas passible de la punition pour avoir eu une relation avec la femme de son père, car le mariage n'était pas valide. Alors lorsque Rabbi Yitzhak est venu, lui, il a ramené une Braïta qui nous enseigne comme ce qui a été enseigné dans la Mishnah. C'est-à-dire que dans tous les cas, Rabbi Yehuda nous dit que l'on est passible d'une seule punition. Même si cette femme avait le droit d'être mariée avec son père et que le mariage est valide. Et cette Braïta nous dit, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit, Eno chayav ela mishum ma'im bilvad. Il n'est passible de punition seulement pour l'interdit d'avoir une relation avec sa mère. La Gemara demande, Vetama mai. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui dit qu'un homme qui a une relation avec sa mère, qui est la femme de son père, n'a de punition que pour l'interdit de sa mère? Alors Amar Abaye, Abaye a dit, car le verset a dit, lorsqu'il vient nous prévenir et nous avertir qu'il est interdit d'avoir une relation avec sa mère, Imecha i, c'est ta mère, et hi, c'est, ça vient exclure autre chose. Et donc de là j'apprends, Mishum imo atamechaivo, tu le rends passible de punition pour avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation avec sa mère, veiatamechaivo mishum meshetav, mais tu ne le rends pas passible de punition pour avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation avec la femme de son père. Agma demande la mat, alors maintenant, ce qui est dit dans le verset à propos de celui qui a une relation avec la femme de son père, ervat eshet avicha lotegale, la nudité de la femme de ton père, tu ne dévoileras pas, ervat avicha i, c'est la nudité de ton père. Et nous voyons à nouveau le terme hi, c'est. Et donc ça vient exclure autre chose. Alors qu'allons-nous dire? Mishum eshetav atamechaivo, viatamechaivo mishumimo. Tu le rends passif de punition pour avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation avec la femme de son père, mais tu ne le rends pas passif de punition pour avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation avec sa mère. Et même si tu me dis oui, que c'est en effet c'est ce que ça vient inclure, alors ce qui se passe, c'est que ela imo shi eshetaviv kayacha omemaetla. C'est que sa mère, qui est la femme de son père, ce verset vient et l'exclut, et ce verset est kayacha omemaetla. Et cet autre verset vient aussi et l'exclut. C'est-à-dire, le premier verset nous dit qu'on est passible de punition seulement pour l'interdit de sa mère. Le second verset vient nous dire seulement pour l'interdit de la femme de son père. Donc ça veut dire que sa mère, qui est en même temps la femme de son père, est exclue dans les deux cas. Et donc, ashta imo, sheena eshetaviv, michayev. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que sa mère, qui n'est pas la femme de son père, il est passible de punition. Eshetaviv, sheena imo, michayev. La femme de son père, qui n'est pas sa mère, il est aussi passible de punition. Par contre, imo, shei eshetaviv, sa mère, qui est aussi la femme de son père, l'homme michayev klal. Il ne serait pas du tout passible de punition. Vetou et de plus. Les rabbanan, d'après les sages, qui eux pensent que dans tout cas, un homme qui a une relation avec sa mère, qui est en même temps la femme de son père, est passible de deux punitions. Nami aktiv imechai, il est aussi écrit imechai, c'est ta mère. Et qu'apprennent-ils de ce mot i, c'est? Ela omibaye, l'air de rachisha, berederavidi. Alors en fait, nous sommes obligés de dire que ce terme i, il l'utilise pour l'enseignement de Rachisha, le fils de Rabidi, que nous allons voir un peu plus loin. Alors pour Rabbi Yehuda aussi, on a besoin de ce terme « hi » pour l'enseignement de Rav Shisha, le fils de Rabbi Yehuda. Et donc, nous ne pouvons pas apprendre de ce terme « hi »« imechai » c'est ta mère, et ça vient exclure l'interdit d'avoir une relation avec la femme de son père. Et donc, à nouveau revient la question, d'après Rabbi Yehuda, d'où apprenons-nous qu'un homme qui a une relation avec sa mère, qui est en même temps la femme de son père, n'est passible que d'une seule punition pour avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation avec sa mère, mais pas pour avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation avec la femme de son père. Et là, Amar Avacha Bered Eravik, alors Avacha Bered Eravik a dit, d'où l'apprenons-nous, Amarka, le verset a dit, Ervata, c'est sa nudité. Et c'est au singulier ce terme. Et donc de là j'apprends, Mishum erva achat atamechaivo, à cause d'une nudité, tu lui donneras une punition, veiadamechaivo mishum shtervot, et tu ne lui donneras pas de punition à cause de deux nudités. Et donc de là j'apprends qu'un homme qui a eu des relations avec sa mère, qui est en même temps la femme de son père, n'est passible que d'une seule punition. Voilà que m'a demandé la mat, alors maintenant ce qui est dit dans le verset est, ervat kalatra lot egale. La nudité de ta bru, tu ne dévoileras pas. Eshet bincha hi, c'est la femme de ton fils. Lot egale ervata, tu ne dévoileras pas sa nudité. Et à nouveau le terme ervata, sa nudité au singulier. Achanami, mishum erva achat atamechaivo, vei atamechaivo, mishum shervot. Est-ce que ici aussi nous allons dire que tu le rends passible de punition pour avoir dévoilé une nudité, mais pas pour avoir dévoilé deux nudités, on ne lui donnera pas deux punitions? Vatnal, pourtant nous avons enseigné dans la Mishnah, Habal kalato, chayav alea, mishum kalato, mishum eshetish. Un homme qui a eu une relation avec sa bru, est passible d'avoir transgressé deux interdits. Premièrement, l'interdit de sa bru, et deuxièmement, l'interdit d'avoir une relation interdite avec une femme mariée. Et donc nous voyons que nous le donnons deux punitions, bien qu'il est écrit dans le verset, ervata, sa nudité au singulier. Et la Mishnah continue nous dit, ben bechayebno, ben leachar mitadbno, que l'interdit d'avoir une relation avec sa bru, c'est soit durant la vie de son fils, et c'est même après la mort de son fils. Velo palig Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda n'est pas en discussion sur cette Mishnah. Donc tout le monde est d'accord que sur sa bru, il y a deux interdits, bien que le terme ervata soit mentionné dans le pasouk, dans le verset, et ce terme est au singulier. Nous ne pouvons pas dire que le terme ervata, sa nudité au singulier, vient nous dire qu'on ne transgresse qu'un seul interdit. Et donc, de même que pour la bru, il y a deux interdits, il est très possible que pour sa mère, qui est en même temps la femme de son père, il y ait deux interdits. Bien qu'on ait utilisé le terme ervata, sa nudité au singulier. Et pourquoi? Elle a kevan de chalgoufaï, étant donné que c'est une seule personne, afalgav de tre isur eninu, bien qu'il y a deux interdits, ktiv ervata, c'est pour ça que nous avons utilisé ce terme, sa nudité au singulier. Car c'est une seule personne avec deux interdits. Achanami, donc de même ici aussi, à propos de sa mère qui est en même temps la femme de son père, kevan de chalgoufaï, étant donné que c'est une seule personne, afalgav de tre isur eninu, bien qu'il y ait deux interdits, sa mère et la femme de son père, ktiv ervata, c'est pour ça qu'il est écrit ervata, sa nudité au singulier. Et donc nous ne pouvons pas apprendre de là que l'on ne reçoit la punition que pour un seul interdit. Donc à nouveau revient la question, d'après Rabbi Yehuda, d'où l'apprenons-nous? Et nous avons fini ici le shiur, le daf, nun gimel. Nous commençons, Bezot Hashem, le shiur de daf, nun dalet. Nous sommes daf nun gimel, amud bet, quatre lignes avant la fin. Nous avons vu dans le shiur précédent que la Gemara se posait la question d'où Rabbi Yehuda apprenait ce qu'il a enseigné dans la Mishnah, qu'un homme qui a une relation avec sa mère, qui est en même temps la femme de son père, n'est passible que d'une seule punition pour avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation avec sa mère. D'où apprend-il cette chose-là? Alors la Gemara a apporté plusieurs réponses qui ont été repoussées. Elle a amar Rava. Alors Rava a dit, Kasava Rabbi Yehuda pense, Ervat avicha, que ce qui est dit dans le verset, tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, zu eshet avicha. Ça fait allusion à la femme de ton père. Umaitela begzera shava. Et on apprend par gzera shava, umashma ben eshet aviv sheimo, ben eshet aviv sheinaimo. Et ça sous-entend que ce soit la femme de son père qui est en même temps sa mère, soit que ce soit la femme de son père qui n'est pas sa mère, comme nous allons l'expliquer. Et maintenant, la Gemara demande, Imo she'ena eshet aviv minayin, sa mère, qui n'est pas la femme de son père, d'où j'apprends que c'est là aussi interdit, Talmud Omar, le verset nous dit, Ervat imecha lot egale. La nudité de ta mère, tu ne dévoileras pas. Imechai, c'est ta mère. Et donc de là j'apprends, Mishum imo atamechaivo, que tu le rends passible de punition pour avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation avec sa mère. Vei atamechaivo mishum eshet aviv. Mais tu ne le rends pas passible de punition pour avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation avec la femme de son père. C'est-à-dire que ce même verset, qui au début nous dit l'interdit de dévoiler la nudité de son père, et qui dans la suite de ce verset nous dit qu'il est interdit de dévoiler la nudité de sa mère, c'est vrai qu'au début du verset, nous parlons de la nudité de son père, c'est-à-dire la femme de son père, dans tous les cas, soit que ce soit sa mère, soit que ce ne soit pas sa mère, mais la suite de ce même verset, qui nous parle de l'interdit de dévoiler la nudité de sa mère, vient nous dire que dans un cas où cette femme est sa mère, et la femme de son père, il n'est passible de punition que pour avoir transgressé l'interdit d'avoir une relation avec sa mère, comme il est dit, Imecha hi, c'est ta mère. Et nous allons voir immédiatement comment nous apprenons du terme Ervat avicha, c'est la nudité de son père, la nudité de ton père, l'interdit de dévoiler la nudité de ton père, comment nous apprenons de là que ça sous-entend la femme de son père, soit qu'elle soit sa mère, soit qu'elle ne soit pas sa mère. Car apparemment, Ervat Avicha, c'est la nudité de ton père. Ça peut faire allusion à la femme de son père à la limite. Mais comment nous savons-nous, pouvons-nous ici inclure deux choses? Et la femme de son père qui est sa mère, et la femme de son père qui n'est pas sa mère. Alors cela, nous l'avons dit, Rava a dit que nous l'apprenons par Gzera Shava. Et ça, c'est ce que nous allons apprendre immédiatement. Dans la Braïta suivante.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.